France Info.
C'est l'heure des informés de France Info. Bonsoir. Huitième journée de mobilisation des Gilets jaunes avec des incidents en région, des incidents à Paris, des heurts avec les forces de l'ordre, des voitures incendiées et un ministère attaqué. On va en débattre tout au long de cette émission, les informer tout au long de cette soirée sur l'antenne de France Info avec de nombreux invités. Nos invités en studio, tout d'abord, que j'accueille avec plaisir, Frédéric Bedos. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Pierre.
Journaliste, fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine. Mercredi prochain, vous allez présenter en salle de cinéma votre film consacré à Jean Vanier, le sacrement de la tendresse, en un mot, Jean Vanier.
Jean Vanier, c'est le célèbre fondateur de l'Arche. L'Arche, ce sont des communautés qui, partout dans le monde, dans 135 pays aujourd'hui, prennent soin des personnes qui sont atteintes de handicap mental.
Et on entendra Jean Vanier, justement, dans cette actualité des informés, car il était sur la place de la République il y a quelques années pour célébrer les 50 ans de l'Arche. Et il a un propos qui résonne dans cette actualité des Gilets jaunes. Bonsoir Jean-Christophe Gallien.
Bonsoir.
Politologue, consultant en communication, président de JCGA Conseil. Bonsoir Denis Siffert.
Bonsoir.
Journaliste, directeur de l'hebdomadaire Politis. Alors, dans ces informés de France Info, l'actualité de cette journée, ce sont donc les Gilets jaunes, huitième journée de mobilisation, acte 8, c'était la reprise du mouvement après une sorte, après la trêve, c'était une journée test. Alors on va revenir sur cette journée test, mais d'abord, le fait principal de cette fin d'après-midi, après ces violences, des voitures incendiées, une péniche incendiée à Paris, c'est cette incursion dans le ministère de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Je m'adresse aux communicants que vous êtes, Jean-Christophe Gallien. Lorsqu'un ministère est attaqué, en l'occurrence la porte de son ministère a été défoncée par un engin de chantier, des gens cagoulés se sont introduits dans la cour du ministère, ont visiblement cassé deux voitures. Le porte-parole du gouvernement, monsieur Benjamin Griveaux, a été écarté par les responsables du protocole. Il n'y a pas eu d'agression physique. Mais cette agression, que représente-t-elle contre un bâtiment de l'État? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est quand même, non pas un tournant, mais c'est une étape supplémentaire dans ce moment particulier, cette éruption qui maintenant dure depuis un certain nombre de semaines dans ce pays. Là, on est face à quelque chose qui vient évidemment s'introduire dans un lieu républicain. Alors, c'est pas toute la République qui est attaquée, comme dirait Monsieur Griveaux, mais c'est quand même un espace d'un ministère, c'est un espace de la République, un espace qui appartient à tous et à toutes. Il est certainement celui qui a été le plus aussi en... non pas en ordre de bataille sur le terrain, mais peut-être celui qui a le plus parlé.
Benjamin Griveaux, porte-parole.
Exactement, c'est dans cette période compliquée. Donc il a beaucoup exprimé, non pas une ligne dure, mais des mots qui étaient quand même très, sinon agressifs, en tout cas. Alors, assez fermes.
Avant de revenir sur les mots du porte-parole du gouvernement, hier notamment, on va revenir sur cette symbolique, Frédéric Bedos. Est-ce que attaquer un ministère, défoncer la porte, investir la cour du ministère, casser des voitures, est-ce que c'est s'attaquer à la République, à la démocratie? Est-ce que c'est aussi important que ces violences lors d'une première manifestation sur les Champs-Élysées contre l'Arc de Triomphe? Il y avait eu des tags, des Gilets jaunes s'étaient investis, avaient investi l'Arc de Triomphe et avaient cassé des pièces à l'intérieur du bâtiment.
Oui, effectivement, on voit bien que ça chauffe, que ça se tend, qu'il y a une radicalisation au sein du mouvement. Et je crois que la chose qui est difficile à appréhender, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est insaisissable d'une certaine façon, parce que il est tellement disparate dans sa composition. On y trouve de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des gens complètement apolitiques qui étaient finalement les gens silencieux, qui ne parlaient pas, qui étaient parfois protestataires ou simplement abstentionnistes. Il y a un petit peu de tout ça. Il y a effectivement la France qui souffre, la France des 1500 euros, on va dire, de ceux qui sont pas totalement dans la précarité, mais qui sentent une fragilité qui pourrait basculer d'un jour à l'autre. Donc c'est tout ça qui fait que ça a interpellé l'opinion publique de façon très forte, parce que beaucoup de gens ont pu s'identifier à ces différents types de profils. Mais en même temps, voilà, quels sont vraiment le profil des personnes qui sont venues voilà, défoncer la porte du ministère, c'est ça qu'il va falloir vraiment regarder de près, parce que j'ai l'impression que les provocations de ces dernières semaines de la part du gouvernement, c'est-à-dire d'essayer de mettre tout le monde dans le même sac en disant ce sont des agitateurs, la foule haineuse, des choses comme ça, c'est très provocateur, et je crois que la caricature est toujours humiliante.
Alors on va revenir sur les propos des uns et des autres. Denis Siffer, je voudrais vous entendre sur ce symbole. Le ministère attaqué, symbole aussi fort que l'Arc de Triomphe?
C'est un autre symbole, mais très clairement, depuis plusieurs semaines, la question des institutions et du pouvoir, en fait, le mot d'ordre de Macron démission, je l'ai entendu d'ailleurs en venant encore ici tout à l'heure, non pas dans la Maison Ronde, mais à proximité.
Il y a eu quelques gilets jaunes devant la Maison de la Radio, comme tous les samedis.
Et donc, on voit très clairement qu'on est parti, en effet, de la question des taxes, du pouvoir d'achat, on est parti de la question des services publics aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que cette question était très clairement posée tout de suite, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une sorte de globalité, disons, des revendications, une politisation d'emblée, contrairement à ce qu'on a dit, c'était pas simplement Poujade en 55, hein. Mais là, on a de plus en plus, parce qu'il y a une fin de non-recevoir du gouvernement, des mots en effet qui ont pu blesser, mais aussi le sentiment que il y a un refus total de débattre, de discuter, de bouger. Le changement de cap n'aura pas lieu. On engage une consultation, des débats, mais dont on connaît déjà l'issue. En tout cas, les gens ont le sentiment qu'ils connaissent déjà l'issue. Donc c'est cette espèce de sentiment d'impuissance et de rage qui peut conduire à des actes de ce genre.
On va poursuivre ce débat dans un instant. Les informés de France Info consacrés à cette 8e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Avant cela, puisqu'il est 20h10, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Augustin Rivet.
L'acte 8 des Gilets jaunes avec un regain de participation et de violence. Des incendies de véhicules à Paris, mobilier urbain détruit. Benjamin Griveaux a été évacué. La porte de son secrétariat d'État défoncée avec un engin de chantier. D'après le porte-parole du gouvernement, c'est la République qui a été attaquée par une minorité. Pas de blessés sur ce terrain-là. Ailleurs, une banque a été saccagée à Rouen. Un homme blessé à la tête dans la ville après un tir de balle de défense. Un nuage de gaz lacrymogène à Nantes. Un policier roué de coups à Paris près de l'Assemblée nationale. Le chiffre de participation revu à la hausse par le ministère de l'Intérieur. 50 000 personnes dans les rues sur tout le territoire. Journée de manifestation également en Hongrie. Les opposants au Premier ministre Viktor Orban appelés à défiler contre une loi récemment adoptée, un texte qui détricote le droit du travail hongrois. 6 000 personnes ont répondu présents à Budapest. C'est moins que les rendez-vous du mois dernier. Il y avait eu une dizaine de jours de manifestation. L'administration américaine toujours paralysée malgré la nouvelle réunion cet après-midi entre le vice-président Mike Pence et des parlementaires. Le Congrès refuse le projet de la Maison-Blanche de financer la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Et puis le football, Bourges face à l'Olympique Lyonnais, ce sera à 20h55, les 32e de finale de la Coupe de France, avec pas mal de surprises ce samedi. Victoire de Viry-Châtillon 1-0 face à Angers. Lyon-Duchère a éliminé Nîmes 3-0. Qualification de l'Entente Sannois-Saint-Gratien 1-0 aux dépens de Montpellier. En ce moment, le FC Metz joue sur le terrain de Saint-Quentin les prolongations. Et les Grenats mènent 2-1.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. À la suite de ces informés de France Info avec Denis Siffer, directeur de l'hebdomadaire Politis, avec le politologue Jean-Christophe Gagnier, avec la journaliste Frédérique Bedos, fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine. On a parlé du décor, on parle des mots à présent qui sont importants. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui déclarait hier, ce mouvement est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Je m'adresse à vous, Jean-Christophe Gallien, politologue, est-ce que le porte-parole du gouvernement, qui est ciblé ce soir, a jeté, entre guillemets, de l'huile sur le feu ?
Ce serait un peu dur de dire qu'il est récompensé de cette manière-là. Je crois qu'il y a quand même... Il est vrai, pour juste revenir un poil en arrière, c'est partout en France, il y a quand même une forme de radicalisation en termes d'effet, en termes d'impact, et notamment de vouloir pénétrer dans les lieux dits de la République.
À
Rennes, c'est l'hôtel de ville. Bon, on est passé d'une occupation de l'espace qui ressemblait beaucoup à ce qui se passe dans tous les mouvements qui existent depuis 10 ans, des lieux. Alors parfois c'est des grandes places, parfois c'est des ronds-points en France. On a inventé ce contexte-là, à quelque chose qui devient différent là pour le coup. Pénétrer, ça ressemble à ce qui s'est passé. Rappelez-vous, le premier week-end au Puy, envolé lorsqu'ils ont certains manifestants ont voulu prendre d'assaut
la préfecture
de. Mais je crois que.
Mais c'est très 68 heures.
Exactement. On est dans un système qui lui est très français finalement là aussi, dans une forme de relation avec l'histoire de ce pays. Et peut-être effectivement pour revenir au mot, et là c'est très important, qu'un certain nombre d'affirmations, si vous le disiez Frédéric tout à l'heure, il y avait depuis un certain nombre de moments une volonté de taper sur certains comportements, et c'est normal que le gouvernement puisse dire bah là c'est pas acceptable. Par contre, de placer tout le monde dans ce même seau assez terrifiant de gens qui peuvent vouloir casser, pénétrer dans les espaces communs de la République, remettre en question non pas simplement les hommes politiques, parce que dire Macron démission, c'est pas tout à fait pareil que de vouloir pénétrer à l'intérieur du ministère, si vous voulez. Mais quand Macron dit à une époque, venez me chercher si vous voulez effectivement qu'on puisse aller plus loin, venez me chercher, ça veut dire que des gens vont vouloir aller le chercher. Quand Benjamin Griveaux dit, parce qu'il a envie de le dire, même s'il est porte-parole du gouvernement, qu'effectivement tout ça c'est des séditieux, de l'insurrection, qu'on en veut au gouvernement, qu'on veut retrouver la République.
Il est aussi dans
son rôle. Maintenant, ça veut dire aussi qu'en écho à cela, il y a une population à l'intérieur de ce mouvement, ou en tout cas dans ce pays, qui est prête aujourd'hui à aller un poil plus loin que l'idée d'occuper des espaces, d'occuper la rue digitale aussi, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se font aussi. C'est pas simplement un mouvement physique, mais qu'on peut aller plus loin aussi maintenant dans l'occupation d'un certain nombre d'espaces républicains. Ça pose une question particulière et encore une fois à laquelle les autorités de ce pays vont devoir répondre, mais je dirais les autorités et aussi finalement nos représentants.
Frédéric Bedos, ces images de violence, même si on ne les a pas vues, on voit une porte éventrée d'un ministère, ça va discréditer aussi le mouvement, ça va peut-être renforcer quelques agitateurs dans leur mobilisation contre la démocratie, contre la République, mais ça va aussi discréditer ce mouvement des Gilets jaunes.
De toute façon, la violence, elle est toujours choquante. Et donc, je pense que la plupart de l'opinion publique ne peut pas soutenir la violence. En revanche, le grand public dans son ensemble est tellement bien informé aujourd'hui qu'il sait faire la différence. Il sait très bien que si aujourd'hui, il y a moins de monde dans la rue, ça ne veut pas dire que pour autant, la colère est rentrée ou qu'elle a été satisfaite, même par les dernières annonces de Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc, la colère est toujours là. Pour une bonne partie, cette colère est légitime. Et donc, les Français se retrouvent dans cette colère. En revanche, ils se rendent bien compte qu'il y a une infime partie du mouvement qui est très radicalisée, qui peut effectivement être insurrectionnelle, qui veut certainement renverser la table. C'est là où on peut retrouver un petit esprit de mai 68, sauf que les circonstances n'ont absolument rien à voir. Mai 68, on était en plein dans les 30 glorieuses et on cherchait vraiment à se libérer d'une morale à la papa et on voulait dégager un général. Aujourd'hui, certains des gilets jaunes veulent remettre un général au pouvoir et on est loin d'être dans les 30 glorieuses. Donc on voit bien que faut faire la part des choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un désir quand même de démocratie. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que effectivement, la démocratie, ces dernières décennies, on a fait comme si elle était acquise. Or, ce n'est pas vrai. La démocratie, c'est quelque chose de très fragile, qu'il faut sans arrêt revitaliser, revisiter pour véritablement lui donner de la force. Et quand je pense, il y a quelques années, au printemps arabe, qui s'est fait aussi par les réseaux sociaux, Facebook, etc., c'était vraiment un désir de démocratie. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'exprime, qui est très précieux. Et la France peut incarner quelque chose de très fort parce que la France, malgré le fait que c'est aujourd'hui un petit pays et que c'est plus la puissance que c'était autrefois, eh bien, le monde entier a toujours les yeux rivés sur la France. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce mouvement qui peut être très constructif pour le futur et qui doit être visité.
Denis Siffer, le problème, c'est qu'on est à la fois dans une confrontation politique, saine, normale, mais on est dans une confrontation physique aussi, qui se manifeste ce soir.
Je crois que ceux qui passent à l'acte pour entrer dans un ministère ou forcer les portes de préfecture sont quand même très minoritaires.
Bien sûr.
En revanche, je crois qu'ils s'inscrivent quand même dans un continuum des mots d'ordre, Macron démission notamment, parce que c'est le plus spectaculaire, il y a de remise en cause des institutions du pouvoir, de toutes les institutions d'ailleurs, y compris, enfin la presse n'est pas une institution, enfin, de façon tout à fait scandaleuse d'ailleurs, les journalistes sont pris à partie parfois, donc il y a cette remise en cause de tout ce qui incarne l'ordre actuel et l'ordre ancien, en tout cas dans l'imaginaire des manifestants. Je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, mais ce qui vient d'être dit par Frédéric est très juste, c'est-à-dire que la vraie question, c'est la question démocratique. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment, c'est la question sociale d'abord, bien entendu, mais étant donné qu'il y a ce sentiment qui est une réalité, le très grande injustice sociale, et une impossibilité de l'exprimer, une impossibilité d'avancer dans la voie de plus de justice sociale, on remonte très loin. Moi, je pense au 49-3 de Valls, etc. Hein. C'est-à-dire que Macron, avec un peu d'arrogance en plus, un supplément d'arrogance qui lui coûte cher, mais il paye quand même l'addition d'années et d'années de surdité politique, de gens qui ont cru pouvoir passer en force, et finalement, je pense même à la SNCF et toutes ces manifestations qui ont été vaines, finalement, qui ont été stériles. Je pense que c'est tout ça que paye aujourd'hui le gouvernement, et donc la question démocratique atteint maintenant les institutions, touche. Il faut changer les institutions, c'est ce que disent majoritairement les gilets jaunes.
Jean-Christophe Guillien.
Alors, les institutions, et puis, encore une fois, aussi mon utilité sociale. Je pense que dans tous ces mouvements, on parlait de ceux du pourtour méditerranéen, mais on peut parler de l'Espagne, des États-Unis et ailleurs, tous ceux qui se sont déroulés, il y avait trois grandes catégories, économique et sociale, combien j'ai dans ma poche pour finir le mois. Évidemment, la dimension démocratique, pas forcément d'ailleurs dans l'idée de vouloir prendre la décision, mais d'impulser un rythme qui ne soit pas simplement basé sur on vote tous les 5 ans, tous les 4 ans, mais ce qu'on peut, en anglais, on appelle accountability, c'est-à-dire comment on peut tracer ensuite la réalité du travail politique qui est fait. Et puis, il y a un troisième point qui n'est pas suffisamment acté et posé ici, c'est en lien d'ailleurs avec ce que vous faites au sein de votre ONG, c'est quoi mon utilité sociale ? Aujourd'hui, je peux avoir un travail, je peux ne pas en avoir, mais finalement, parfois, je me pose la question de savoir quel est mon rôle, pourquoi. Et quand les gens ont mis ces gilets jaunes, on retrouve les couleurs de cette radio, d'ailleurs, c'est extraordinaire, celle qui vient au quotidien nous informer, là, dans un rythme, celui de la vie de tous les jours, c'est, j'avais disparu. Et grâce à ce gilet, finalement,
jaune fluant que l'on voit,
exactement, qu'on voit, comme celui-là encore une fois, je sors de cet anonymat, je sors de ce noir dans lequel, des obscurités dans lesquelles j'étais placé, et on va être obligé de nous regarder. Alors, on a été obligé de nous regarder parce qu'on est sur les ronds-points, on a été obligé de nous écouter, de nous lire sur les réseaux sociaux. Et maintenant, peut-être qu'on va on va être obligé de nous considérer davantage qu'au-delà de la violence qui a été faite sur des espaces commerciaux, dans des espaces communs qui étaient ceux du conflit de la rue. Et j'espère que non, d'ailleurs. Aller plus loin, et c'est-à-dire maintenant passer les portes des lieux de l'autorité et de la République.
On va poursuivre ce débat très intéressant dans les informés de France Info, mais avant cela, à 20h20, très précis, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Augustin Rivet.
Des gilets jaunes s'en sont pris aux portes des bureaux de Benjamin Griveaux à Paris, entrée défoncée à l'engin de chantier. Le porte-parole du gouvernement a été évacué sans mal. D'autres débordements sur le boulevard Saint-Germain, scooter incendié, des affrontements avec les forces de l'ordre à Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 42 interpellations pour la seule ville de Lille. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 50 000 personnes dans toute la France et certains défilés se sont produits dans le calme, ainsi à Clermont-Ferrand. Pas d'avancée dans les discussions entre le Congrès américain et la Maison Blanche. Ce soir, des parlementaires étaient reçus par le vice-président Mike Pence, mais toujours pas d'accord budgétaire pour financer le mur à la frontière mexicaine. La paralysie de l'administration continue. Pas de résultat officiel en République démocratique du Congo. C'est reporté à la semaine prochaine. La présidentielle avait lieu dimanche dernier. Dans la capitale Kinshasa, moins d'un tiers des bureaux de vote a fini le comptage des voix. Le président du Congo, Brazzaville, voisin, a appelé aujourd'hui la population à la retenue et à la mesure pour la sauvegarde de la paix. Il s'agit de trouver un remplaçant à Joseph Kabila qui ne pouvait pas briguer un nouveau mandat. La Coupe de France de football, 32e de finale, ça passe pour Guingamp qui a dominé Pontivy Stade 4-2. Le club de Lyon-Duchère en national a battu Nîmes 3-0. Viry-Châtillon, 6e division, est venu à bout d'Angers 1-0. On joue en ce moment les dernières minutes des prolongations entre Saint-Quentin et Metz. Les Messins mènent 2-1.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
On poursuit notre débat des informés de France Info avec Frédéric Bedeau, journaliste, réalisatrice. Je rappelle le titre de votre film documentaire qui sortira en salle mercredi prochain. Jean Vanier, le sacrement de la tendresse. Les informés avec Jean-Christophe Gallien, président de JCGA. Et avec Denis Siffer, le directeur de l'hebdomadaire Politis. On parle de la violence qui s'exprime dans ces manifestations des Gilets jaunes. Frédéric Bedeau, s'il n'y avait pas eu la violence, on le dit depuis quelques semaines, le gouvernement n'aurait pas reculé, le président n'aurait pas reculé. Malheureusement, et heureusement pour certains, la violence sert la cause
Oui, c'est terrible ce que vous dites, parce que c'est clair que n'importe quel mouvement, n'importe quel autre mouvement, s'il a 10 fois plus de personnes dans la rue, on pourra dire, oh, est-ce que c'est mitigé, est-ce que c'est vraiment un succès,
alors mais encadré, là c'est pas voilà, encadré, exactement. Ça déborde.
Et donc forcément, ça marque les esprits. Maintenant, il faut aussi se dire que cette violence, elle répond à une autre violence qui, elle, est quotidienne, et qui est une violence fiscale, qui est une violence sociale, qui est une violence de dénigrement. En tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti par une grande partie de la population, et ça a au moins l'intérêt de remettre tout ça vraiment sur le devant de la scène. Et quand on regarde les réponses qui ont été apportées par Emmanuel Macron ces derniers temps, et véritablement, je suis d'accord avec Denis, hein, il paye la note d'un dénigrement qui date de bien avant lui, hein, ça fait des décennies que toutes ces choses-là sont sur la table, mais que finalement, chacun l'instrumentalise à son propre profit, mais ne l'adresse pas réellement. Je veux dire, on repense à Jacques Chirac qui parlait déjà de la fracture sociale, François Hollande, quand il a été élu, c'était en disant « mon ennemi, c'est la finance ». Qu'est-ce qu'ils en ont fait de tout ça? Bah, pas grand-chose, moins qu'on puisse dire. Donc, on se retrouve face à cet affrontement. Et parmi donc les mesures qui ont été annoncées, et notamment là, on va avoir cette mesure fiscale, le fait qu'il va y avoir un prélèvement à la source. Mais en fait, on est sur des mesures techniques, mais il n'y a rien au niveau de la philosophie même de la politique fiscale. Or, c'est véritablement là-dessus que le bas blesse et qu'on attend du changement. Donc, on voit bien là que j'ai l'impression que le gouvernement est en train de se recroqueviller sur lui-même en disant bah on va recommencer à foncer pour amener du changement rapidement et répondre aux promesses qu'on avait faites lors de notre élection, sauf que il y a 2 ans, ce n'est déjà plus la même chose.
Frédéric Bedos, vous avez dans votre film rencontré un homme qui s'appelle Jean Vanier, qui est le grand homme qui a œuvré pour l'association L'Arche, qui a consacré toute sa vie aux gens que l'on ne voulait pas voir, les gens qui étaient placés dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a, en 2014, Jean Vanier prenait la parole, place de la République, devant des milliers de personnes à l'occasion des 50 ans de son association L'Arche. Il célébrait le jubilé. Il a pris la parole, Jean Vanier. Écoutez bien ses propos, ils sont d'actualité, ils s'adressent à tous ceux qui sont écrasés, aux humiliés, les faibles.
Aujourd'hui, il y a encore une tyrannie. Et c'est la tyrannie de la normalité, la tyrannie de la compétitivité, la tyrannie de vouloir toujours gagner. Et quand cette tyrannie s'installe, comme ça s'installe dans nos cultures, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les faibles qui sont écrasés, les faibles qui sont humiliés, les faibles qui sont mis de côté. Et qu'est-ce que le faible a besoin? C'est pas de l'argent, c'est de la reconnaissance.
Alors, les faibles, les humiliés, est-ce que ce sont aujourd'hui les gilets jaunes? Tiens, je m'adresse à vous, Jean-Christophe Galléen, qui ont besoin de l'argent et de reconnaissance?
Sont des faibles parce qu'effectivement dans cette économie de l'attention notamment dans laquelle nous sommes là aujourd'hui en particulier, ils ont le sentiment eux d'être dans l'attention de l'audience digitale, de tout ce qu'on peut imaginer, ils ont le sentiment eux d'être très loin de tout ça, et donc c'est encore une fois très partagé à travers le monde aujourd'hui, et pas seulement le monde qui nous ressemble mais ailleurs, c'est cette demande d'être participant d'un destin. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a des mesures techniques et la politique finalement devient aujourd'hui très technocratique. Et je crois que profondément dans la critique qui est faite, qui est pas une critique, qui est une critique ad hominem maintenant, ou à personne, hein, en l'occurrence sur Emmanuel Macron, c'est voilà, trop de technocratie. Le politique, on a le sentiment non seulement qu'il a perdu une partie de la bataille par rapport à l'économie et aux acteurs directs de l'économie, on pense notamment à ceux de la finance, parler des discours à la fois de Hollande, mais rappelons Obama, hein, qui avait dit aussi « je vais faire la chasse », Sarkozy et les autres, après la crise de 2008, mais... on a le sentiment qu'au-delà de l'économie et de la finance, le politique qui a perdu cette bataille-là, il est en train de perdre la bataille ici, face à la technocratie. Prélèvement à la source, Emmanuel Macron disait lui-même qu'il n'en voulait pas, et il s'est laissé faire, ou en tout cas accepté. On est face à ce défi-là aujourd'hui, de rentrer non pas moins de politique, mais plus de politique dans cette vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Denis Siffert.
Oui, mais je crois que... Alors, je n'emploierai pas le mot faible s'agissant des gilets jaunes, mais ça a été dit tout à l'heure, je ne sais pas si le mot a été employé, mais c'est ça que ça signifiait. Ce sont ceux que l'on a rendus invisibles. Mmh. Et, d'une certaine façon, ceux que traite votre fondation sont aussi des gens qu'on a voulu rendre invisibles, qu'on ne veut plus voir, qu'on ne veut pas voir dans la société. Donc là, en effet, il y a une rencontre évidente. Mais je crois qu'au fond de l'affaire... la question quand même du partage des richesses, de la justice sociale. C'est pour moi, et là je reviens vraiment aux gilets jaunes, c'est pour moi la grande question, et on a tort souvent de dire le gouvernement prend appui sur le budget européen, et les contraintes, etc. Mais à l'intérieur même de ces contraintes, il y a probablement un autre partage des richesses à concevoir. Moi je crois beaucoup à une sorte de révolution, je sais pas si le mot est juste, fiscale. Je pense que un autre régime fiscal pourrait répartir mieux les richesses et en effet apaiser ce sentiment d'injustice qui est très fort, qui tourne maintenant à la colère, une colère nationale, si j'ose dire.
On va continuer à débattre de tout cela avec vous dans ces informés de France Info, la deuxième partie des informés dans un instant, juste après la météo et l'info.
Bonjour, c'est la nature qui vous parle. Je ne suis pas en grande forme, mais j'ai enfin une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, il est interdit aux particuliers de détenir et d'utiliser des pesticides chimiques dans leur jardin. Ça va nous permettre de respirer un peu. Si vous détenez des pesticides chimiques, il suffit de les déposer gratuitement dans l'une des 3000 déchetteries municipales. Pour trouver la déchetterie la plus proche, rendez-vous sur ecodds.com. Ecodds est une société agréée à but non lucratif qui collecte vos déchets chimiques.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
On regarde la couleur du ciel de ce dimanche avec vous, Jean-Michel Golinski, Météo France.
Demain, la couleur du ciel va changer pour le quart nord-ouest du pays, c'est-à-dire passer du variable aujourd'hui au gris tenace. Dans le sud-ouest, les brouillards et les nuages bas évolueront peu, voire très lentement, sauf près des Pyrénées, où le bleu va rapidement s'imposer. De la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Corse et du sud du Massif central au Golfe du Lion, le soleil va briller. Le mai viendra du vent avec des rafales de Mistral et de Tramontane à près de 100 km à l'heure. Enfin, de l'Auvergne-Rhône-Alpes en remontant vers le Grand Est et le nord de la Seine. Pas de changement par rapport à aujourd'hui, avec du gris à perte de vue, des pluies fines par intermittence et des flocons à très basse altitude le matin des Vosges au Jura. Les températures vont stationner à peu près dans les mêmes valeurs, avec des gelées vers moins 3, moins 6 degrés dans le sud-ouest, 0 à moins 2 de la pointe bretonne aux Charentes et près des frontières de l'Est, et toujours 4 à 8 degrés en général l'après-midi, jusqu'à 14 ou 16 degrés de Bastia à Nice.
Merci Jean-Michel, il est 20h30 sur France Info.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
On retrouve Julien Langlais pour l'info.
Ce n'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République. Voilà la réaction de Benjamin Griveaux qui a dû être évacué en urgence de son ministère après l'intrusion en fin d'après-midi de manifestants violents dont certains vêtus de gilets jaunes et qui ont défoncé la porte de son secrétariat d'État rue de Varennes à l'aide d'un engin de chantier. C'est toujours là-bas que vous vous trouvez pour France Info, Sandrine Etouandeg. Vous avez rencontré tout à l'heure le porte-parole du gouvernement.
C'est le fait d'une minorité, mais c'est gravissime, a réagi tout à l'heure Benjamin Griveaux, devant la porte en bois éventrée en train d'être réparée de son ministère. Vers 16h30, le porte-parole du gouvernement était en train de travailler quand un groupe d'individus, certains avec un gilet jaune, d'autres sans, ont défoncé la porte d'entrée, puis la grille avec un engin de chantier trouvé dans la rue. Une fois dans la cour, ils ont sérieusement dégradé de véhicules et cassé quelques vitres avant de repartir. Entre-temps, Benjamin Griveaux et ses équipes ont été évacués dans un lieu sûr. Vous l'avez dit, hein, il y a eu ces mots forts du porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas moi qui a été attaqué aujourd'hui, c'est la République, les institutions, a répété le secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Il prévient, il faut que ceux qui souhaitent l'insurrection appellent les Français à prendre les armes, veulent marcher sur l'Élysée, sachent que la République se tient debout. Nous ne céderons rien. Il demande aussi aux gilets jaunes de se désolidariser, de condamner clairement les violences comme celle d'aujourd'hui dans les locaux de son ministère.
Merci Sandrine Etouandeg en direct pour France Info. Rue de Varenne à Paris, cette 8e journée de mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris et dans toute la France, davantage que samedi dernier, près de 5000 encore à Bordeaux, plus de 3000 dans la capitale, plusieurs milliers aussi à Caen et Toulouse, et des incidents donc parfois comme à Paris où des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre dans le quartier de l'Assemblée nationale autour des Champs-Élysées. Un policier a été blessé, une vingtaine de personnes interpellées, deux policiers également blessés à Dijon, 42 interpellations à Lille dans le Nord et puis des affrontements encore, des tensions à Rennes, Nantes ou encore à Rouen. Plusieurs milliers de Hongrois ont défilé ce samedi dans les rues de Budapest pour protester contre la nouvelle loi sur le travail du gouvernement de Viktor Orban, un texte qui permet aux chefs d'entreprise d'exiger 400 heures supplémentaires de travail par an, et il est à l'origine ce texte de nombreux cortèges depuis la mi-décembre dans la capitale hongroise. La Coupe de France de football est en 32e de finale et déjà des clubs de Ligue 1 au tapis. Angers, Nîmes et Montpellier ont été sortis par Viry-Châtillon, Lyon-Laduchère et l'Entente Sannois Saint-Gratien qualifié également. Le club vendéen des Herbiers qualifié aussi pour les 16e, Marignane Gignac ou encore les nordistes de Croix, Orléans, Dijon, le SC Bastia, Amiens, Nantes, Sète, Metz, Caen et Nantes donc vainqueur hier de Châteauroux. À suivre ce soir le déplacement de Lyon sur le terrain du club de National 3 de Bourges.
Merci à vous Julien Langlet.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Frédéric Bedeau, journaliste, fondatrice de l'ONG Le Projet Imagine. Vous présentez mercredi prochain en salle de cinéma un beau documentaire consacré à Jean Vanier intitulé Le Sacrement de la Tendresse avec Jean-Christophe Gallien, politologue, consultant en communication, président de JCGA, et avec Denis Siffer, journaliste, directeur de l'hebdomadaire Politis. On continue à parler de cette 8e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Vous avez entendu les propos du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, son ministère, la porte de son ministère défoncée par un engin de chantier, deux véhicules cassés dans la cour de son ministère. Ce n'est pas moi qui a été attaqué, dit-il, mais la démocratie, la République se tiendra toujours debout. C'est le cas. C'est ce que vous pensez, Frédéric Bedeau. Ce n'est pas lui qui a été attaqué.
Alors cette phrase, forcément, elle éveille un souvenir très récent, puisque c'est notre ami Mélenchon qui a dit à peu près la même chose il n'y a pas très longtemps quand il avait subi les perquisitions en disant « c'est pas moi qu'on a taxé la République ».
La République, c'est moi.
La République, c'est moi, voilà. Donc c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que ce mouvement des Gilets jaunes, il est là justement pour essayer de montrer du doigt l'orgueil des élites, et nous avons justement des phrases qui démontrent absolument cet orgueil. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je pense encore une fois que tout à l'heure avec Denis, on a parlé de cette révolution fiscale qui pourrait avoir lieu. En tout cas, c'est une demande de plus de justice sociale, et donc aussi ça passe forcément par une politique fiscale ajustée. Et avant de venir, je regardais un petit peu des notes concernant, dans quelques semaines, il y aura le sommet de Davos, le forum économique de Davos, et Oxfam a sorti une dernière étude qui démontre que 8 personnes sur la planète détiennent à elles toutes seules la richesse équivalente à 3,6 milliards personnes. Les 3,6 milliards étant les personnes les plus pauvres de la planète. Mais ça vous donne un petit peu une idée. 8 personnes, et ces 8 personnes évidemment sont des hommes, et alors que de l'autre côté, sur les 3,6 milliards des personnes les plus pauvres, il y a quand même une majorité de femmes. Je veux dire, à un moment, il va falloir se poser des questions sur les abus de cette économie libérale et essayer de se dire, et ça veut pas dire qu'on doit tout de suite forcément verser dans le communisme, ça veut juste dire que les choses sont perfectibles et qu'il va falloir se pencher sur tout cela, parce que l'économie libérale qui est complètement laissée comme ça à elle-même sans aucune mesure politique pour la délimiter, eh bien elle est en train d'épuiser le vivant, la planète et les hommes qui l'habitent.
Alors cette question de l'économie, Frédéric Bedeau, vous l'évoquez. Denis Siffer, vous l'avez évoqué. Je voudrais vous faire écouter Yann Brossa. Il était l'invité de France Info cet après-midi. Il est adjoint en charge du logement à la mairie de Paris, tête de liste du Parti communiste aux européennes.
Je crois que la question fondamentale, c'est la question de la répartition des richesses. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où, à un bout, il y a des gens qui se gavent et de l'autre, des millions de gens qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Quand on voit que dans notre pays, on a 1 million de retraités pauvres, on se dit que la situation ne peut pas continuer comme ça. Et il y aurait suffisamment de richesses dans notre pays pour permettre à tout le monde de vivre correctement. Encore faudrait-il partager ce que pour l'instant le gouvernement se refuse à faire.
Denis Siffert, directeur de l'hebdomadaire Politis, c'est votre credo, faut partager. Mais est-ce qu'on peut le faire? Parce que ce sont des grandes incantations. Est-ce que c'est possible?
Bien sûr, c'est difficile.
Est-ce que ça rapporte
c'est
l'ISF?
Parce qu'il y a une, c'est pas simplement l'ISF. L'ISF, c'est plus un symbole que... Enfin, c'est un peu plus qu'un symbole quand même, économiquement.
Mais c'est comme la taxe sur les GAFA, on n'y arrivera jamais.
Mais c'est aussi un symbole. Mais c'est une volonté politique. Et je crois que le problème... Parce que Benjamin Griveaux dit... il n'a pas dit la République c'est moi, mais il a dit c'est la République qui est attaquée. Les gens disent le peuple c'est nous. Et qu'est-ce que c'est que la République sans le peuple? Donc on est quand même dans une situation de fracture et de rupture. Alors peut-être qu'il y a de l'imposture des deux côtés, un peu, ou de l'exagération des deux côtés. Mais je crois que la grande faute de Macron et du gouvernement, c'est de croire qu'ils allaient pouvoir s'en tirer avec finalement quelques astuces ou en annulant des mesures qui avaient été prises et qui finalement n'auront pas lieu. Je pense qu'il va falloir un changement de cap. Et des actes symboliques forts qui incarnent, qui s'identifient à un véritable changement de cap.
Jean-Christophe Gallien.
Moi, je crois que c'est le politique, encore une fois, il ne peut pas être monsieur Brossa, qui lui-même est d'ailleurs est très largement dégagé par ce mouvement comme par d'autres auparavant, et donc il émet depuis une position politique qui est la sienne. Je crois que c'est plus compliqué que l'idée de la seule répartition. Il y a aujourd'hui finalement une difficulté de trouver sa place. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que on peut pas penser tout en termes de répartition simplement de la richesse. Il y a le prélèvement, on a parlé de la fiscalité, il y a ensuite ce qui se passe, il y a aussi l'idée que l'administration a pas fait sa mue, qu'on fait de l'administration, on n'est pas contre le service public, mais on veut moins de service public du service public et plus de service public en action. Voilà, tout ça est très complexe et dans cette matrice qui est à utiliser aujourd'hui, qu'on cherche à comprendre, face à ce mouvement et face à d'autres ruptures dans cette société française. Parce que finalement, le mouvement aujourd'hui, il a un seul mérite, et peut-être que c'est peut-être un faux mérite, c'est de rassembler des gens qui sont parfois très opposés. Mais en réalité, la société française, elle vit sur des ruptures extrêmement nombreuses qui opposent à la fois des minorités, des gens qui n'ont pas les mêmes rapports, en tout cas par rapport à la société. On l'a vu depuis une dizaine d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement se dire, voilà, il y a un mouvement, une option qui est celle des Gilets jaunes, qui est à un moment de dire halte à cette société telle qu'elle est là, en regardant pas effectivement ses propres divisions et ses messages qui sont très contradictoires, face à une classe politique elle-même très composite, parce que La République En Marche, par exemple, c'est un mouvement très composite, les autres partis ont explosé. D'ailleurs, ils sont très silencieux, ils ont du mal à s'exprimer, ils sont eux-mêmes dégagés, les médias eux-mêmes sont en question ou questionnés à la fois par les politiques, par ces mouvements-là. Donc, l'ensemble est en grand mouvement. Donc, on est face à un moment qui est difficile à penser, difficile à exprimer. Je plains d'ailleurs les politiques au gouvernement aujourd'hui pour répondre à cela, mais je plains aussi les gens dont nous sommes, qui font face à cette évolution qui est à un moment. Et peut-être que, effectivement, c'est un moment particulier, c'est certainement plus celui de Davos, certainement plus celui de Davos, mais c'est peut-être pas celui de Porto Alegre non plus, et c'est peut-être pas encore moins celui de celle du mouvement qui était en Pologne récemment sur la réflexion autour du climat. C'est plus complexe, et c'est un mouvement où la France, du coup, prend quelque chose de plus important parce que ça se situe chez nous, alors qu'ailleurs, ça s'est déjà déroulé, ça a été dissous, ça a été digéré, ça a exprimé des partis politiques, l'Italie, l'Espagne, on verra. Mais aujourd'hui, c'est plus complexe que ces seuls rapports aux répartitions de richesse, à la fiscalité, à l'environnement, au rapport des pays les uns avec les autres, il y a quelque chose qui est en train de bouger et qu'on a du mal à exprimer.
On va poursuivre ce débat. Pardon, c'est tout ça. Ça englobe tout.
On va poursuivre ce débat des informés.
Oui, mais déjà,
quand
on parle de répartition de richesse, on est déjà dans un postulat. Vous voyez, la richesse, elle peut se déplacer, elle n'est pas forcément répartie toujours.
L'heure tourne. On va poursuivre ce débat des informés. On a un impératif pendule. 20h41, l'essentiel de l'info, c'est avec vous, Augustin Rivé.
50 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui. Les chiffres sont ceux du ministère de l'Intérieur. Acte 8 des Gilets jaunes, des débordements, principalement à Paris, avec Benjamin Griveaux qui a dû être évacué de ses bureaux, la porte d'entrée de l'immeuble défoncée à l'aide d'un engin de chantier. D'après le porte-parole du gouvernement, c'est la République qui a été attaquée. Des affrontements ailleurs dans l'Ouest, Saint-Nazaire, Rouen, où un manifestant a pris une balle de défense en pleine tête, et puis des gaz lacrymogènes tirés à Nantes, des voitures brûlées à Bordeaux. Aux Pays-Bas, l'exploitant du porte-conteneur qui a perdu son chargement en mer cette semaine, le transporteur MSC, s'est engagé aujourd'hui à rembourser toutes les opérations de nettoyage à la fois sur les côtes néerlandaises et allemandes. 270 conteneurs étaient passés par-dessus bord en pleine tempête. Il n'y en a que 22 qui ont été retrouvés pour l'instant. Le projet de mur à la frontière mexicaine ne séduit toujours pas le Congrès américain. Les négociations avec la Maison-Blanche patinent. Ce soir, des parlementaires étaient reçus par le vice-président Mike Pence, mais rien de neuf. Le shutdown, la paralysie de l'administration continue. Le football, avec plusieurs clubs de Ligue 1 surpris et éliminés dès les 32e de finale de Coupe de France. C'est le cas de Nîmes, sorti 3-0 par Lyon-Duchère. L'entente Sannois-Saint-Gratien est venue à bout de Montpellier 1-0. Le FC Metz vient de battre, quant à lui, Saint-Quentin par 2-1. À 20h55, il y aura la rencontre entre Bourges et l'Olympique lyonnais.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info avec Frédéric Bedeau, ce journaliste réalisatrice du film documentaire qui sort en salle mercredi, Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse, avec Jean-Christophe Gallien, politologue, président de JCGA, et avec Denis Siffert, journaliste directeur de l'hebdomadaire Politis, nous a rejoint dans ce studio Yannick Falt de la rédaction du service politique de France Info. On revient avec vous sur ces événements, sur cette journée de violence, sur ce symbole, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement visé, en tous les cas son ministère. On peut dire que ce n'est peut-être pas un hasard puisqu'il a été l'un de ceux qui a eu les mots les plus durs contre les Gilets jaunes ces derniers jours.
Oui, hier notamment à l'issue du Conseil des ministres de rentrée en dénonçant, je cite, « des agitateurs mus par le désir de renverser le gouvernement ». Des mots très forts donc dans la veine de ceux déjà entendus lors des flambées de violence qui ont marqué les différentes journées de mobilisation des Gilets jaunes. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, souvenez-vous, qui parlait de factieux, de séditieux, opposer la légitimité de la colère sociale à l'illégitimité des violences. C'est la stratégie du gouvernement depuis plusieurs semaines, alors que l'opinion est en fait figée depuis l'annonce par Emmanuel Macron des différentes mesures en faveur du pouvoir d'achat. On l'a vu dans notre sondage Odoxa Dentsu Consulting jeudi soir, 55% des Français qui souhaitent la poursuite du mouvement, ils étaient 54% le 11 décembre, des chiffres similaires. Benjamin Griveaux qui tente ainsi probablement de faire basculer l'opinion, de créer un ras-le-bol des Français face au dérapage du mouvement. Ce n'est pas sa ligne personnelle, bien sûr, c'est celle du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a appelé à l'ordre républicain lors de ses vœux du 31. Mais les mots très durs du porte-parole du gouvernement, qui laissaient donc entendre un risque de coup d'État, ont peut-être jeté de l'huile sur le feu. C'est en tout cas ce que dénonce déjà l'opposition par la voix de Damien Abad, le vice-président des Républicains.
Yannick Falt, est-ce qu'un degré supplémentaire dans la violence contre les institutions a été franchi ce soir?
Oui, clairement, car il y avait déjà plusieurs types de violences, violences verbales. Éric Drouet, qui a dénoncé une arrestation politique à l'issue de sa garde à vue cette semaine, argument repris notamment par les Insoumis et par le Rassemblement National. On se souvient aussi de Christophe Chalençon, l'un des porte-parole des Gilets jaunes, qui réclamait la nomination du général De Villiers à la place du Premier ministre Édouard Philippe. Le général De Villiers qui avait été démis de ses fonctions de chef d'état-major des armées par Emmanuel Macron. Violence visant les députés de la majorité, aussi à répétition. Permanence vandalisée, insultes, voire menaces de mort. La propriété de la députée Mireille Robert, par exemple, envahie dans l'Aude. Dégradation contre les permanences aussi cette semaine des députés Olivia Grégoire et Sacha Houlier qui ont décidé de porter plainte. Mais là, on franchit effectivement un pas de plus avec un ministre ou un ministère directement visé. Nouvelle illustration de la radicalisation du mouvement et de la fracture béante désormais entre ceux qui le poursuivent et les dirigeants politiques.
Merci à vous Yannick Falt. Alors les mots ont de l'importance depuis quelques heures. Un mot venu du grec ancien revient, commence à prendre place dans l'actualité. Il s'agit d'oclocratie, un régime politique dans lequel la foule et non le peuple tente d'imposer sa volonté. Explication avec l'historien Jean Garrig, professeur à l'université d'Orléans et à Sciences Po.
C'est évidemment une impasse, mais il faut quand même rappeler que le peuple, c'est 65 millions de Français et plus. Donc voilà, cette idée de cette utilisation du peuple à tort et à travers depuis quelques mois, elle est évidemment extrêmement dangereuse. Et je crois que on s'est beaucoup emballé, et logiquement d'ailleurs, et même enthousiasmé pour ce mouvement des Gilets jaunes. Mais je pense qu'il faut revenir aussi au fondement fonctionnement de ce qu'est une démocratie et se méfier des emportements que peut susciter justement la foule. Et ça, c'est toute l'histoire de la démocratie. C'est arrivé à plusieurs reprises. Georges Clemenceau avait été traumatisé lorsqu'il était jeune par la foule de la Commune de Paris. Il sympathisait avec cette Commune de Paris, avec ce que voulaient les communards, mais la foule et ses excès l'avaient effrayé.
Frédéric Bedeau, journaliste fondatrice de l'ONG Le Projet Imagine, l'Oclocratie. Jean Garrigue qui nous dit la représentation démocratique est en crise, c'est ce qu'on constate depuis plusieurs semaines. C'est ne pas confondre la foule et le peuple.
Oui, c'est sûr. En même temps, moi, j'ai vraiment l'impression que depuis quelque temps, la stratégie gouvernementale, c'est justement d'essayer d'opérer la division. Il faut réussir à diviser le mouvement des Gilets jaunes pour réussir à délégitimer toute une partie de ce mouvement. Et donc, c'est une des manières de faire. Ce qui me frappe, c'est que utiliser un mot aussi complexe que oclocraxie, c'est encore une fois ramener ce côté élitiste qui continue d'accentuer
cette fracture. On est en train de parler entre nous, là, visiblement.
Oui, c'est vraiment ça. Et de même, moi, je me souviens, à un moment, j'avais été absolument frappée du discours que Emmanuel Macron avait fait justement pour défendre. C'était tout un discours sur sa politique, la transition énergétique. Et c'était le premier discours depuis la crise des Gilets jaunes qui commençait vraiment à s'enflammer. Et donc, on se demandait comment il allait s'adresser pour la première fois aux Gilets jaunes. Et en fait, il ne s'adressait pas à eux. Il avait gardé son agenda tel quel. Et donc, il avait fait son discours qu'il avait déroulé sur la transition écologique. Et dans ce discours, il y avait ce mot superfétatoire. Et je me souviens, j'avais bondi sur mon fauteuil parce que je m'étais dit, mais où on est? Parce que on a des personnes qui sont en train de tous les jours d'être sur, voilà, d'avoir froid sur des ronds-points. Et qui demandent à ce qu'on prenne en compte leur réalité du quotidien, et on a un président qui leur répond par des mots comme superfétatoire. Donc, vous voyez, oclocraxie, pour moi, c'est la même chose. On est toujours dans ce même regain de, on est les sachants, et puis vous savez pas. Et ça, c'est terrible parce que la réalité, c'est que ce dialogue de sourds amène la violence. Et la sensation aussi que j'ai, c'est que derrière tout ça, il y a énormément de ressentiment. De la part du mouvement, vraiment dans son ensemble, il y a vraiment du ressentiment. Or, c'est très dur de bâtir sur du ressentiment. Donc, il faut faire très attention parce que tout ça est explosif en vérité.
Jean-Christophe Gallien.
On pourrait le voir du côté positif, c'est-à-dire que finalement, une tentative de penser au moins ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas reprocher à des acteurs politiques, pour le coup, d'essayer de prendre des points de courbe de repère pour traduire ça. Ils auraient pu aller plus loin et aller chercher dans quelque chose qui se trouve dans le management, mais qui a été utilisé dans les mouvements, qui s'appelle non pas l'oclocratie, pardon, je connaissais pas, mais l'adocratie. C'est-à-dire, en gros, c'est quelque chose qui dit qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans cette espèce d'intermittence démocratique qui nécessite et qui va fabriquer des éruptions de ce type parce que c'est le seul moyen de pouvoir intervenir dans l'espace et dans le champ public. C'est compliqué, encore une fois, de se rapprocher de cela et d'y répondre lorsqu'on est des gouvernants. Je parle même pas de la classe politique qui, encore une fois, a été elle-même dégagée par celui qui en a fait son marketing politique de conquête. Et donc finalement qui s'est mis comme un président en direct, en live, avec cette population. Aujourd'hui, il a commis une seule erreur à mon avis, c'était celle de la première, lorsque cette main a été tendue, parce que ce mouvement, c'est une série de mains qui se sont tendues vers le politique. Et au lieu de pas la regarder, au lieu de la snober comme ça a été fait, puis ensuite, peut-être même de la taper, et puis ensuite, dans un troisième temps, de lui faire la main, et en gros, de lui faire on lui a donné quelques pièces. Aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse politique, une impasse institutionnelle quasiment, parce que là, quand on commence à toucher au lieu de la République, c'est un peu ce qu'on avait dit un mois dans le mouvement, quand on appelle à Macron démission, on est non plus simplement dans le politique, mais dans un temps institutionnel. Alors certes, qui n'est pas porté par tout le monde, mais si on va vers, encore une fois, cette rue digitale qui exprime bien d'autres sujets, on est face à quelque chose de plus puissant. Et encore une fois, ça met en cause quelque chose, c'est que le politique n'écoute pas les capteurs. Et quand on est au gouvernement, on oublie ce ton de campagne et on oublie d'écouter ce qui avait été annoncé depuis un certain temps. Ce mouvement-là, il n'est pas né comme les Gilets jaunes, il est là depuis l'été, sur les champs digitaux en particulier, et on a oublié de l'écouter, que ce soit les préfectures, voire certains acteurs politiques.
On va poursuivre ce débat dans un court instant. Avant cela, à 20h51, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Augustin Rivet.
La mobilisation des Gilets jaunes reprend de l'ampleur avec 50 000 personnes dans les rues aujourd'hui d'après le ministère de l'Intérieur, des cortèges un peu partout en France, parfois dans le calme, comme à Clermont-Ferrand, mais des affrontements ailleurs, le plus symbolique à Paris, où le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a dû être évacué. La porte de ses bureaux a été défoncée à l'aide d'un engin de chantier. Les nerfs qui s'échauffent, mais les températures, elles, refroidissent avec des gelées encore la nuit prochaine dans une grande partie de la France. Méfiance au volant avec des plaques de verglas dangereuses par endroits. 18 véhicules étaient ce matin impliqués dans un carambolage en Gironde. 8 blessés, dont 4 graves sur l'autoroute A10 au niveau de Saint-Vincent-de-Paul. La police californienne recherche encore ce soir le ou les tireurs aux États-Unis. Nouvelle fusillade ce matin, 3 morts et 4 blessés. Ça s'est produit dans un bowling dans la station balnéaire de Torrance. Peu de communication de la part de la police. Il n'y aurait pas de suspect identifié pour l'instant. Dans moins de 5 minutes, le coup d'envoi d'un match entre Bourges et l'Olympique Lyonnais. 32e de finale de Coupe de France de football. Sur le papier, c'est l'OL qui est favori. Mais il y a parfois des surprises avec l'élimination tout à l'heure du SCO d'Angers par Viry Châtillon 1-0. On peut également citer la victoire de l'autre club lyonnais, Lyon-Duchère, 3-0 contre Nîmes.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
On poursuit notre débat des informés avec vous, Frédéric Bedos, avec Jean-Christophe Gallien, avec Denis Siffer. Tiens, journaliste, directeur de la revue Politis, Denis Siffer. J'ai retrouvé ces mots de Raymond Aron qui illustrent peut-être ce que l'on est en train de vivre. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. On en est là aujourd'hui. Il avait raison, Raymond Aron.
Oui, sans doute. C'est un propos très, très général auquel tout le monde pourrait souscrire, sans être Raymond Aron. Mais ce que je crois, c'est que, c'est pas seulement que le gouvernement ou Macron n'a pas écouté cette tranche de la population qui s'est levée, en effet, contre sa politique. C'est que, d'une certaine façon, il ne peut pas l'entendre. Hein, parce qu'il est pris dans un système un peu idéologique, disons le mot. Hein. Pour moi, c'est la faillite de la Startup Nation hein, qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la Startup Nation, c'est quoi? Ben, c'est l'idée qui était très macronienne, mais pas seulement, au-delà de nos frontières, ça existe aussi, qu'on va administrer le pays, somme toute, avec un budget et un peu comme une entreprise. Et c'est-à-dire que c'est un peu l'abolition de la politique, c'est un peu l'abolition de la conflictualité, c'est l'abolition du débat démocratique. Hein. Et donc, forcément, on ne peut pas entendre avec ce système.
Je vois que Jean-Christophe et Frédéric sont tout à fait d'accord ouais. hein, sur ce que vous dites là.
Parce qu'on veut parce qu'en fait, profondément, depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de rejet du politique. Il y a une envie de plus de politique. Ouais. Le rejet du politique, on l'exprimait parce que les gens ne venaient pas face à une offre politique qui était contestée. L'offre politique qui vient au moment des élections, elle a été contestée. C'est d'ailleurs l'atout majeur d'Emmanuel Macron, qui a encore une fois saisi cette opportunité, du marché politique, et dire, eh ben, les gens ne veulent plus de l'offre politique. Et d'ailleurs, lui s'en est appuyé, il a dit, vous ne voulez plus ces gens-là, on va les balayer, c'est terminé. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est en partie vrai, et il a emmené avec lui les corps intermédiaires, les syndicats, les médias. Les médias, rappelez-vous le traitement qui a été infligé aux médias dans les premiers mois après avoir été parfaitement en lien, les premiers mois de la gouvernance, en l'occurrence de cette majorité, ça a été dire, bon, les médias, on s'en fout un peu, on n'a pas besoin. On va faire de la gouvernement direct, de la médiatisation directe. Donc on est face à cette difficulté qui est celle-là, et qui est de dire, voilà, on veut plus de politique. On en veut plus parce que on veut pas forcément la même politique. Ça veut pas dire pour autant que les gens, ils appartiennent aux mêmes opinions, aux options politiques.
On veut plus de politique, mais lorsqu'il y a des élections, il n'y a pas beaucoup parce de monde qui va voter quand
même. Parce que l'offre qui est proposée ne convient pas.
C'est un paradoxe.
L'offre proposée, ah non, c'est pas un paradoxe. C'est-à-dire que les mouvements politiques tels qu'ils étaient, puis ceux qui incarnaient les mouvements politiques depuis un certain nombre d'années, n'étaient pas achetables.
Donc il faut du renouveau.
Excusez-moi de le dire, mais c'est ça.
Il faut du renouveau.
Ben, c'est ce qui a été fait par Emmanuel Macron, notamment au tour législatif, mais ça ne suffit pas non plus, puisque on vient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les rythmes de la démocratie, et à l'intérieur des intervalles de cette démocratie représentative, il y a des besoins qui ne sont pas forcément de décider, s'ils sont un peu de participer, en tout cas de suivre à la lettre ce qui est en train de se passer.
Denis, les gens en fait réinvestissent la politique.
C'est ça qui est,
si on veut avoir un tout petit peu d'optimisme dans cette histoire, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande de politique, de débat, d'être entendu, de participer. Et en effet, on va toucher à des questions institutionnelles. On n'a pas encore parlé du référendum, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler.
Je crois qu'on n'a plus très le temps, mais vous reviendrez.
En fait, il y a une soif de politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la vie de la cité, le rôle de chacun dans cette vie de la cité en tant que citoyen. Or, c'est une des fiertés du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'être un mouvement apolitique, c'est-à-dire pas encarté comme ci ou comme ça, mais en tout cas, un mouvement citoyen. Et c'est véritablement ça qui est en train de se réveiller.
Et il faut simplement que les Gilets jaunes, comme tous ces gens, ne se trompent pas tout à fait non plus d'ennemis. Plus de politique, ça veut dire aussi de faire confiance un peu aux politiques, mais c'est aussi de viser, encore une fois, l'espace administratif, qui doit être questionné dans ce pays, très fortement, et aussi celui de l'entreprise. On parlait de Davos tout à l'heure, l'entreprise, elle prend sa décision. C'est elle qui choisit de rémunérer telle qu'elle peut rémunérer, c'est elle qui choisit d'acheter comme elle peut acheter. Les Gilets jaunes doivent y penser.
Un dernier mot pour vous, Frédéric Bedeau.
Oui.
Je rappelle, vous sortez un film important, documentaire sur Jean Vanier, un personnage qui s'appelle Le Sacrement de la Tendresse. Et dans ce beau documentaire que j'ai eu l'occasion de voir, Jean Vanier dit ces mots, parmi d'autres. Les personnes avec un handicap sont les plus opprimées du monde. On ne voit pas le handicap, on voit le cri. C'est le message de votre documentaire qui sort mercredi.
Oui, et je pense que c'est bien à propos par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a un cri qui est en train, qui s'exprime et qu'il faut entendre. Et derrière les personnes handicapées mentales, de quoi on parle ? On parle d'abord de la vulnérabilité, de la fragilité, de la différence. Et c'est tout ça qu'on essaye souvent de balayer. Or, ça doit absolument être exprimé. Et nous devons apprendre à vivre ensemble avec cette vulnérabilité dans un monde qui prône toujours plus de compétitivité, où il faut se montrer le meilleur, etc. Donc là, effectivement, il y a d'un côté la technocratie, la réelle politique qui écrase tout sur son passage et qui fait que la politique perd son âme. Eh bien, aujourd'hui, il y a un cri qui se fait entendre en France pour qu'on retrouve notre âme.
Merci à vous d'avoir participé à cette émission spéciale des informés. Denis Siffer, je renvoie à la publication de votre hebdomadaire Politis. Merci à vous Jean-Christophe Gallien, président de JCGA. Merci à vous Frédéric Bedeau. On vous retrouve sur votre site Le Projet Imagine et dans les salles de cinéma mercredi à l'occasion de la sortie de votre film documentaire consacré à Jean Vanier, film document qui s'intitule Le Sacrement de la Tendresse. À suivre la météo et l'info.